Bonjour, merci d'être venu pour cette quatrième et dernière séance d'objectif bac. On a un petit souci technique, donc on va commencer avec un peu de retard. On a encore 5 minutes pour régler un problème informatique. Nous accueillons aujourd'hui Brigitte Alain Chevalier, qui est professeure agrégée, formatrice de professeurs et qui a rédigé et supervisé l'édition pédagogique d'un manuel qui s'appelle Le Dessous des cartes et qui donc est inspirée des émissions de Jean-Christophe Victor.
Donc, comme cela vous a été annoncé, je vais donc aborder quelques grandes entrées de votre programme de géographie qui étaient notées dans le programme, hein, c'est-à-dire un espace mondialisé, une interface nord-sud de la Méditerranée et des mondes en quête de développement. Donc, ce sera l'occasion aussi de revenir sur les notions clés de ce programme, comme par exemple évidemment mondialisation, interdépendance, pôle, frontières, interface, développement. Disons que c'est celles qui seront le plus mobilisées dans le propos que je vais tenir. Donc après la présentation donc d'une émission du Dessous des cartes de Jean-Christophe Victor, j'ai dirigé donc la version pédagogique de 48 émissions du Dessous des cartes. Qui ont été organisés en 4 livrets, un pour les troisièmes, un pour la classe de seconde, un pour la classe de première et un pour la classe de terminale. Donc, l'émission que j'ai choisie, je l'ai choisie en fait par les opportunités qu'elle offre par rapport à votre programme. C'est-à-dire que le Sahara, pas si désert que ça, permet de revenir sur certaines idées reçues. Si vous avez déjà regardé des émissions de Jean-Christophe Victor, vous savez que c'est ce qui le motive la plupart du temps, c'est de faire comprendre des processus ou des phénomènes et de revenir sur des idées reçues. Donc, à partir de cette émission, nous allons pouvoir, en fait, après, en changeant d'échelle, aborder l'interface donc méditerranéenne. Et puis changer d'échelle encore pour aller aux flux migratoires dans le monde entier et se poser la question de l'apport en fait de la contribution au développement des migrations. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais vous inviter à regarder l'émission, mais j'aimerais que quelqu'un la lance pour pas faire de fausses manipulations. Alors, toutes ces émissions durent en fait 11 minutes. Hein. Et on terminera sur la carte de synthèse, puisque chaque émission, en fait, dans la version pédagogique, est présentée comme un travail de cours organisé, avec problématisé, structuré, et se terminant par un document de synthèse. Donc là, il se trouve que c'est une carte, et quand je vous présenterai, donc on reviendra sur les idées principales de cette émission, on le fera avec la carte donc sur l'écran. Bien, alors nous allons rester sur cette carte de synthèse pour revenir sur les idées majeures de cette émission. Et donc, on va d'abord rester sur le contenu même de l'émission. Donc, cette émission présente une situation géographique qu'on pourra envisager comme une étude de cas. Mais comme vous le savez, toute étude de cas doit être confrontée à une autre ou bien ramenée à des principes ou à des règles plus généraux. Et nous tâcherons au cours du reste de l'exposé de confronter justement donc le cas du Sahara, par exemple, on pourrait le confronter au Mexique pour certaines raisons que nous évoquerons plus loin. Et en même temps, quand on s'intéressera aux flux migratoires à l'échelle de la planète, on verra donc, on retrouvera certains éléments qui sont vérifiables dans les deux cas, c'est-à-dire au niveau mondial et au niveau de cette région du Sahara. Alors, le travail que vous avez là, c'est en fait l'aboutissement d'un travail fait par les élèves sur des cartes de l'émission qui ont été rendues fixes et on ne va pas reprendre tout ça, bien évidemment, puisque on n'en a pas le temps. Alors, les idées majeures, en fait, qui peuvent ressortir hein, de cette carte et du travail qui a été fait, c'est que le Sahara est un espace habité et exploité depuis toujours. On voit donc, et comme Jean-Christophe Victor l'a dit, je me base là sur son commentaire, donc des oasis et des peintures rupestres d'alors, hein, les traces donc d'une, on va dire, habitation ancienne, aux mines d'uranium d'aujourd'hui, par exemple, et aux villes hein, qui se sont développées, et dont il dit d'ailleurs que beaucoup dépassent les 100 000 habitants. c'est-à-dire un phénomène d'urbanisation récent. Le Sahara, c'est aussi un espace parcouru, et traversé depuis des siècles. Alors des routes, des marchands caravaniers et des éleveurs transhumants de toujours, aux camions de migrants d'aujourd'hui. Alors vous avez peut-être cette image en tête qui est dans certains manuels scolaires et qui a fait la une d'un courrier international il y a quelques temps, d'un camion dont on ne remarque pas que c'est un camion, mais on voit surtout une grappe humaine, un peu comme un essaim avec des sacs, des têtes, et on n'arrive plus du tout à voir ne serait-ce que les roues du camion. Alors dans cet espace, les habitants, qu'ils soient nomades ou sédentaires, de même que les routes et les parcours évoluent. Alors ils évoluent pour deux raisons, d'abord avec le contexte historique et aussi avec le contexte économique. Le contexte historique, c'est par exemple l'ouverture des ports d'exportation pendant la période coloniale, ou bien les frontières issues de la décolonisation par exemple. Le contexte économique, c'est la mise en valeur des ressources minières. On pense beaucoup à l'uranium et on en a parlé beaucoup, mais il y a aussi évidemment le pétrole, ou la modernisation des systèmes d'irrigation. Et vous avez eu donc une photo incrustée dans une carte pour montrer donc la construction de ce qu'on appelle la grande rivière artificielle de Libye, hein, qui va des nénuphars de Koufra. Ça aussi, c'est peut-être une image que vous connaissez, hein, des nénuphars qui sont dus au système d'irrigation. Donc, qui tourne sur un axe et qui fait que les parcelles, donc vues d'avion et vues d'un peu plus haut, sont rondes et font des taches vertes dans le désert. Donc voilà pour ces évolutions. Alors le résultat, c'est que la population augmente dans certaines villes oasis qui sont devenues en fait des villes carrefours, voire des plaques tournantes, hein, des plaques tournantes à la fois pour les migrations, mais aussi pour tous les trafics. Et donc une population qui devient de plus en plus cosmopolite. Alors pour reprendre et on va dire prolonger le propos de Jean-Christophe Victor, on a donc les expatriés venus d'Europe, comme par exemple les ingénieurs et techniciens de certaines entreprises. J'évoquerai Areva, Arlit ou bien Agadez, par exemple, mais aussi tous ceux qui travaillent pour les ONG qui sont implantées donc dans cette région. Mais surtout, il y a les migrants, et des migrants qui sont venus donc des autres pays d'Afrique, on en fera la liste tout à l'heure, mais pas seulement. Et il s'avère que de plus en plus transitent par le Sahara des migrants venus d'Asie, et venus de la lointaine Asie d'ailleurs, pas seulement donc, on va dire, de la proximité qui serait juste de l'autre côté de la mer Rouge. Donc ces migrants sont en transit vers le continent européen et on en reviendra dessus aussi. Alors, autre résultat, aux routes commerciales s'ajoutent ou se substituent des routes migratoires. Donc pour revenir sur la conclusion de Jean-Christophe Victor, le Sahara n'a plus les moyens d'être un désert. En fait, ça reste un désert au sens physique, climatique du terme. Mais ce qu'il faut en retirer, c'est que le Sahara n'est pas vide d'hommes. Il n'est pas non plus à l'écart des activités économiques, il n'est pas à l'écart non plus des mouvements de population, et en particulier des migrations internationales. Donc je vous rappelle qu'on ne confond pas mobilité et migration, et je vais vous donner la définition donc de la notion de migration. C'est une définition que vous pourrez retrouver dans un certain nombre de dictionnaires, dont celui de Lévy. Alors, on entend par migration le déplacement d'un individu ou d'un groupe d'individus suffisamment durable, alors pour certains plus de 6 mois, pour d'autres plus d'un an, suffisamment durable donc pour nécessiter un changement de résidence principale et impliquant une modification significative de l'existence quotidienne du ou des migrants. Donc vous comprendrez que là, on ne parle pas de migration quand on parle de tourisme. Hein, c'est quelque chose, donc le tourisme qui est limité dans le temps. Ce qu'on appelle aussi les migrations pendulaires, en fait, on devrait plutôt parler de mouvements pendulaires ou de déplacements pendulaires. Donc les migrations impliquent un changement de résidence. Hein, je crois que ça, c'est ce qu'il faut garder donc comme idée majeure. Et comme on s'intéresse aux migrations internationales, on est donc dans les déplacements de population qui nécessitent de franchir une frontière. Alors là, on en est resté au contenu de l'émission. On va voir à partir du contenu de cette émission qu'il y a donc matière à établir des liens avec votre programme de géographie. Donc le cas du Sahara, espace migratoire, on pourrait le confronter à celui du Mexique, comme je disais tout à l'heure, dans la mesure où on va retrouver la notion de frontière, la notion d'interface, et aussi le fait que le Mexique, comme un certain nombre de pays d'Afrique du Nord, sont devenus non seulement des pays de départ, mais aussi des pays de transit, voire des pays d'accueil quand il y a une frontière trop fermée, sous la forme d'un mur, par exemple, matérialisé, qui empêche de passer. Donc, on va retrouver plusieurs problématiques générales de votre programme de géographie. Premièrement, dans quelle mesure les flux migratoires révèlent-ils une interface méditerranéenne? Deuxièmement, dans quelle mesure les flux migratoires sont-ils indissociables de la mondialisation? Et puis, dans quelle mesure les flux migratoires participent-ils au développement des territoires? Donc, c'est à travers ces flux migratoires internationaux surtout, mais pas seulement, que nous allons essayer de dessiner donc la géographie du monde actuel en nous posant des questions de géographes. D'où à où, pourquoi là et quel impact sur les territoires? Nous allons le faire donc en variant les échelles, de la plus grande, l'interface méditerranéenne, à laquelle l'émission donc, que vous venez de voir fait largement allusion, en posant la question Sahara, barrière ou charnière? Et ensuite, on passera donc à l'échelle la plus petite, c'est-à-dire l'étendue terrestre. Je vous rappelle qu'en fait, plus le territoire est grand, plus l'échelle est petite. Donc, ne vous trompez pas. Alors, grand 1, donc l'interface méditerranéenne. Quand on parle d'interface, on parle aussi de frontière, mais l'interface est plus qu'une frontière. Alors, je vous rappelle qu'une frontière, c'est une ligne qui délimite un territoire. Le plus souvent, c'est le territoire d'un État, et dont le tracé instaure parfois physiquement ou matériellement une barrière par des contrôles, des douanes, un système en fait de contrôle d'identité ou bien de marchandises, etc. Alors l'interface, c'est une zone de contact et d'échange entre deux espaces qui sont marqués par une discontinuité. C'est pour ça qu'il peut y avoir donc une discontinuité, c'est-à-dire des espaces qui sont différenciés physiquement, comme par exemple la mer et la terre, la plaine et la montagne. Et là, vous voyez qu'il n'est pas question de frontières au sens territorial, juridique du terme. C'est une zone donc de contact entre espaces différenciés économiquement et par exemple entre pays développés et pays en développement. Alors, la région à laquelle on va s'intéresser, donc, c'est une interface, on va dire, maritime, puisqu'il s'agit de l'interface de part et d'autre de la mer Méditerranée. L'autre interface qui met en contact pays développés et pays en développement, c'est ce qu'on appelle la Mexamérique, c'est-à-dire la frontière terrestre, cette fois, qui met donc en contact les États-Unis au nord et le Mexique au sud. Alors, on va voir, on va se poser la question, est-ce que les relations entre les deux rives sud et nord de la Méditerranée relèvent de la notion d'interface, c'est-à-dire est-ce qu'il y a discontinuité, est-ce qu'il y a échange et complémentarité? Donc là, je vais essayer de passer sans encombre un PowerPoint avec des documents cartographiques. Alors, comme vous le savez peut-être, donc les droits sont... C'est difficile de projeter dans une assistance des documents sans droit. Donc, je n'ai pas d'image à vous proposer. En revanche, donc, les cartes que j'utilise proviennent soit de mon éditeur, soit de documents qui sont visibles sur Internet et à la disposition de tous. Donc, pour les images, c'est un peu plus compliqué. Alors, nous allons donc évidemment, nous n'allons pas procéder à une étude exhaustive de la question. Mais j'ai choisi quelques faits significatifs pour montrer donc que nous avons bien affaire à un espace différencié marqué par de fortes inégalités socio-spatiales. Et là, donc, on a des inégalités d'ordre économique, puisque vous le voyez par les couleurs qui donc sont de plus en plus foncées ou de plus en plus claires, selon que le PIB par habitant PPA est plus ou moins élevé. Donc, vous voyez qu'il y a une disparité assez forte entre la rive sud et la rive nord, avec évidemment les on va dire, les pays où le niveau de vie est le plus élevé au nord, bien que, comme vous puissiez le constater, toutes les situations sont toujours plus complexes qu'on ne croit et il y a des nuances à faire quand on voit par exemple la Bosnie-Herzégovine qui a un PIB par habitant plus bas que la France ou que le Portugal. Autre signe du fait qu'il faut nuancer, on voit que entre la Turquie et Israël, il y a aussi donc des différences de PIB par habitant, de niveau de vie quand on se place donc à l'est de la Méditerranée. Alors ce que je peux vous apporter, hein, ce sont donc quelques chiffres plus précis puisque là vous de loin vous pouvez pas voir vraiment. Bon, donc pour donner un exemple de l'Algérie et du Maroc, le PIB par habitant pour l'Algérie ce sont les chiffres d'Atlas Eco 2011 hein, que je vous donne. Donc 7 890 $ par habitant, le Maroc 4 190. Si je prends la France, c'est 33 280 $ et l'Italie 30 800. Donc on a une idée de la différence hein, qu'il peut y avoir sur ce plan-là. Alors maintenant je change. D'accord. Bon, avec le curseur ici, je vais le faire. D'accord. Bien, alors ici, c'est un autre type de disparité. On est dans les disparités démographiques et on porte notre attention donc sur l'accroissement naturel et la mortalité infantile. Donc, à l'heure actuelle, il y a à peu près donc 400 millions d'habitants autour de la Méditerranée. Et d'ici à 2025, il y aura autant d'habitants au sud qu'au nord. À l'heure actuelle, il y a plus d'habitants au nord qu'au sud. Et cela, donc, on arrivera à cette, on va dire, à peu près égalité de densité de population au nord et au sud, en fait, par un accroissement naturel très élevé dans la partie sud. Évidemment, quand je dis la partie sud, c'est la rive sud de la Méditerranée. Alors, je reprends les mêmes pays que tout à l'heure. En Algérie, il y a à l'heure actuelle 34,9 millions d'habitants. Au Maroc, il y en a donc 31. En France, comme vous le savez, 62,5. Je pense que je parle de la France métropolitaine. Et l'Italie, 60 millions, un peu plus de 60 millions. L'accroissement naturel donc pour l'Algérie est de 1,5%. Pour le Maroc, il est de 1,2%. La France et l'Italie sont à peu près à égalité avec 0,55 ou 0,6%. Il s'agit de l'accroissement, c'est-à-dire pas du solde naturel, hein, mais de l'accroissement qui donc mêle accroissement naturel et enfin solde naturel, pardon, et solde migratoire. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quel est l'âge médian. Hein. L'âge médian, c'est en fait l'âge de 50% de la population. Donc l'âge médian en Algérie est de 26,6 ans. Le Maroc, l'âge médian est de 25 ans. En France, il est de 39,4. Et en Italie, il est de 43,3. En Allemagne aussi. Donc on voit qu'on a quelque chose qui est important en fait et qui a trait à la population active ou au chômage avec soit une population active vieillissante et en baisse dans la partie nord, au nord de la Méditerranée et une population très jeune en recherche d'emploi, de formation et d'emploi dans la partie sud. Alors autre différenciation à laquelle on pourrait s'intéresser. Attendez, donc c'est voilà, ici donc on a la fracture technologique avec le nombre d'utilisateurs d'Internet, le nombre de lignes téléphoniques fixes ou mobiles en 2006. Donc on remarque qu'il y a une nette différenciation avec un équipement beaucoup plus élevé, par exemple en France et en Italie. En Israël, par rapport au reste de la Méditerranée. Bon, ceci est à nuancer, puisque, comme vous le savez, hein, le rôle social des télécommunications est très important. Ça fait longtemps que les paraboles, les téléphones mobiles ou bien l'utilisation d'Internet, même si elle n'est pas à la portée de toute la population, joue un rôle important. dans deux domaines qui nous importent pour ce qui est des flux migratoires. C'est par exemple la diffusion des rébellions en chaîne dans les pays arabes au printemps 2011, et dont on reviendra dessus, et aussi ce qu'on appelle l'imaginaire migratoire, c'est-à-dire ces moyens de ces télécommunications véhiculent en fait des images, des idées sur le niveau de développement au-delà de l'autre côté de la Méditerranée, ou qui suscite ce qu'on appelle donc le mythe de l'Eldorado ou bien l'envie d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire on a envie d'aller voir ce qui se passe dans des pays où la vie semble plus facile. Et j'ai bien dit « semble ». Alors on pourrait, on va arrêter là avec les disparités, mais on aurait pu ajouter quand même à ce propos, en liaison avec ce que je viens de dire, le différentiel politique. Hein, c'est-à-dire qu'au nord de la Méditerranée, on a des démocraties, et jusque-là, au sud de la Méditerranée, on a des régimes autoritaires avec les bouleversements actuels, mais les incertitudes aussi sur l'avenir politique, hein, et les régimes qui seront mis en place dans les mois et les années qui viennent. Donc de ce point de vue, si on reprend le point de départ de notre problématique, on voit qu'il y a bien discontinuité, il y a bien différenciation entre le nord et le sud de la Méditerranée, avec, comme on peut déjà, enfin, de toute façon, c'est pas un scoop, puisque c'était dit dans l'émission de Jean-Christophe Victor, un attrait certain des populations du sud de la Méditerranée pour le nord de la Méditerranée. Donc maintenant, on va voir en quoi le... Donc il s'agit là d'un espace de flux migratoire, et on passe dans l'autre, on va dire, composante de la notion d'interface, qui est celle de contact et d'échange. Alors l'origine donc diversifiée des migrants, il s'agit de migrants africains évidemment en majorité qui viennent du Burkina, du Cameroun, du Congo, du Ghana, du Mali, du Niger, du Nigeria, mais aussi de l'Érythrée ou de la Somalie, mais qui ne viennent pas seulement des pays africains puisqu'on trouve aussi des Irakiens, des Kurdes, des Afghans. Alors on comprend là que on est forcément en train d'évoquer des problèmes de conflits, hein, qui font que des populations donc partent, et pour beaucoup les Afghans, les Kurdes ou les Irakiens ont le statut de réfugiés. Donc les réfugiés, ce sont appartiennent à ce qu'on appelle les migrations forcées, on reviendra dessus plus tard, et ce sont donc des réfugiés parce qu'ils ont franchi la frontière de leur pays. Vous savez qu'il y a aussi donc un autre type de réfugiés qu'on appelle les déplacés internes, et qui eux donc fuient dans leur pays la région qui on va dire met en danger ou rester mettrait leur vie en danger, mais ne quittent pas forcément leur pays. Alors ce qui nous intéresse aussi donc c'est l'impact sur les territoires. Donc là on passe à une échelle encore plus grande. Et j'évoquerai en fait deux impacts sur les territoires qui sont visibles dans les pays de transit, avec ce qui a été évoqué donc dans le documentaire tout à l'heure, le gonflement des villes. Et vous avez entendu parler donc de l'essor de l'économie de transit, qu'on appelle aussi l'économie de passage. Bon, j'ai lu dans un article que tous les cordonniers de Tamanrasset étaient nigériens. Et je vais vous montrer une carte donc qui vient d'une thèse que vous pouvez trouver sur Internet très facilement, qui est très intéressante, et qui est de Julien Brachet. Je vais vous montrer donc cette carte. Voilà. Il s'agit... Alors, les références, j'ai fait exprès de faire une capture d'écran avec le titre, en fait, hein, toutes les références. Donc du titre de la thèse, du sujet de thèse et puis du nom de l'auteur. Donc il s'agit de la thèse de Julien Brachet, « Un désert cosmopolite, migration de transit dans la région d'Agadez au Niger », qui date donc de 2007. Et donc je parle, pour ceux qui sont plus loin, la tache sombre que vous voyez au centre, donc c'est l'espace bâti à Agadez donc avant 1960. Et plus les couleurs deviennent gris clair, plus on s'achemine vers l'époque, la période actuelle, avec un relevé donc qui date de 2005. Et on voit donc l'extension spatiale, hein, l'étalement urbain de la ville d'Agadez. Mais je peux vous donner donc des chiffres. En 1988, il y avait moins de 50 000 habitants à Agadez. En 2001, on en notait 80 000 et en 2007, 100 000. On retrouve donc le cas des villes avec 100 000 habitants dans le Sahara. L'autre matérialisation, enfin l'autre impact sur le territoire, c'est tout ce qui est dans la matérialisation des frontières. Alors j'en ai choisi une qui est assez spectaculaire et que vous connaissez peut-être. Donc c'est là, et on a du mal, enfin on entend souvent parler de ces migrants qui restent bloqués derrière les barbelés de l'enclave espagnole de Ceuta ou bien de Melilla. Et en fait, même quand on voit des photos, on voit une sorte, ça rappelle un peu ce qu'on appelait le rideau de fer entre les deux Allemagnes, hein, avec des patrouilles d'un côté, des migrants de l'autre et des barbelés au milieu. Mais on n'imagine pas en fait la complexité du système de surveillance qui est mis en place, avec, vous voyez, donc des projecteurs, des radars, des diffuseurs de gaz lacrymogènes, une tour de guet et un système donc extrêmement perfectionné et sophistiqué qui, c'est, on va dire, grâce à ou à cause de ces équipements que l'Union européenne prend, on va dire, l'image de la forteresse que vous avez pu donc voir illustrée et caricaturée à diverses reprises par Plantu, par exemple, à la Une du Monde. Alors là, c'est pareil, j'aurais bien voulu, c'est un peu compliqué de vous les présenter. Mais peut-être que dans vos manuels scolaires, vous en avez un certain nombre. Alors, pour on est donc toujours dans l'espace de migration. On voit bien qu'il y a une volonté donc des migrants de franchir hein, cette Méditerranée. Et on voit qu'il y a donc ce qui ressemble très fortement à une barrière. Alors, à quoi est-ce qu'il faut relier donc ces barrières et leurs conséquences en particulier, c'est de faire évoluer les trajectoires des migrants. Alors, je reviendrai ici sur le contexte politique donc de la mise en place de ce qu'on a appelé l'espace Schengen, hein, qui a été mis en place en 1985, avec un système d'information Schengen, le sigle hein, c'est SIS, qui est opérationnel depuis 1995 et qui a été, on va dire, renforcé par la mise en place donc de ce qu'on appelle l'Agence de surveillance des frontières extérieures, qui s'appelle Frontex et qui est active depuis 2005. Alors, tous ces contrôles, la mise en place de tous ces systèmes a eu des répercussions sur la trajectoire des migrants et on a pu constater en 2010 qu'il y avait quasiment une raréfaction des flux de migrants en Méditerranée avec quasiment plus personne qui arrivait sur l'île bien connue de Lampedusa. Alors évidemment, on entend à nouveau parler de Lampedusa, puisque à l'heure actuelle, c'est la fuite, on va dire, par la mer et le moyen qui est le plus pratique, on va dire le plus évident, qui s'offre à ceux qui veulent fuir donc l'Afrique du Nord, en particulier la Libye. Donc ce qui contribuait aussi à la raréfaction des migrants, en tout cas à la dissuasion hein, de la traversée, c'était des accords en fait bilatéraux, en particulier entre l'Italie et la Libye, entre l'Italie et la Tunisie, avec une partie financière assez importante et qui a contribué donc à ce que, par exemple, en Libye, on empêchait les migrants de partir et du coup, la Libye était un pays de transit devenu plus ou moins pays d'accueil. Donc, les migrants changent de route. Et à l'heure actuelle, il passe, à part donc évidemment ce qui est lié très fortement au printemps arabe, emprunte une autre route plus au nord. Donc il passe par exemple par Istanbul et c'est pour ça que vous avez peut-être entendu parler de ce projet de construire un mur à la frontière entre la Turquie et la Grèce, puisque la Grèce voit affluer beaucoup donc de migrants. Alors là, chaque fois que je parle des migrants, il s'agit évidemment des migrants clandestins, hein, de ceux qui n'ont pas le droit de se présenter à une frontière parce qu'ils n'en ont pas les, on va dire, les papiers, hein, les titres juridiques qui le leur permettraient. Alors, non seulement construction d'un mur à la frontière grecque, mais aussi l'impact politique actuel du début du mois de mai, où on a entendu parler donc de la remise en cause de Schengen, hein, des accords de Schengen et du système de Schengen. Donc, on le voit bien, s'il y a cette idée de... On oscille entre fermeture et ouverture, c'est parce que l'immigration est vue en Europe et en France, soit comme une menace, soit comme une nécessité. Et on va essayer de voir assez vite, là, donc, encore une fois, essayer de combattre quelques idées reçues à propos de l'immigration. Alors, j'ai entendu parler, donc, comme vous peut-être, peut-être que vous l'avez vu, vous l'avez acheté, le numéro du Parisien de lundi, qui justement revenait sur l'immigration et essayait de remettre, donc, on va dire, à leur juste place certains chiffres. Encore que, comme je vous le dirai, c'est incomplet comme remise en ordre. Alors, parmi les. Donc, la première idée reçue, c'est l'invasion. La France, c'est parmi les pays qui attirent le plus d'immigrés, est au sixième rang mondial, après les États-Unis, la Russie, mais la Russie, vous savez que c'est dû à la recomposition, en fait, hein, de l'espace, on va dire, de l'ex-Union soviétique devenue Russie, et au retour de ce qu'on a appelé les pieds rouges. Bon, il y a une recomposition, en fait, dans cette partie du monde qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup de migrants. Alors, en troisième position, l'Allemagne. Quatrième, l'Arabie Saoudite. Cinquième, le Canada. Et sixième, la France. Alors, ce qui est intéressant, bon, c'est évidemment là, le rang est dû en fait au nombre, hein, de personnes donc considérées comme immigrées. Et il y a une variante sur laquelle je voudrais attirer votre attention, qui est que l'ONU comme l'INED en France n'ont pas la même acception en fait du mot immigré que l'INSEE. C'est-à-dire qu'on considère comme immigré, quand on s'intéresse, donc quand on est aux Nations Unies ou à l'INED, on considère comme immigré toute personne née à l'étranger et qui franchit donc une frontière pour venir dans un pays qui n'est pas le sien. Alors que pour l'INSEE est immigré toute personne née étrangère à l'étranger. C'est-à-dire qu'un Français né à l'étranger et qui vient en France est considéré comme immigré pour les Nations Unies ou pour l'INED. Ce qui fait que, évidemment, la proportion, le chiffre absolu, la proportion varie, puisque si on se place sur le plan de l'INED ou des Nations Unies, il y a donc 11% d'immigrés en France, alors que pour l'INSEE, ce chiffre est de 8%. Voilà, donc je voulais attirer votre attention là-dessus parce que on a souvent des chiffres qui varient et on ne sait pas pourquoi on a des chiffres différents. Alors évidemment, si on classe les pays de par la proportion d'immigrés dans leur population, ce sont des pays comme les Émirats arabes unis, Oman, qui arrivent en tête avec jusqu'à 70 à 80% de la population qui est constituée d'immigrés. Je voulais aussi attirer votre attention sur le fait qu'il faut distinguer immigrés et étrangers, évidemment, puisque en France, parmi ces 8% d'immigrés, il y en a un certain nombre qui sont français, hein, qui sont devenus français par naturalisation, mais on reviendra dessus plus loin. Alors, je voulais vous montrer donc à ce propos une autre carte. Bon, cette carte, vous pouvez la trouver sur un site que je vous conseille, mais peut-être que vos professeurs vous l'ont indiqué. C'est le site de Géoconfluence, hein, sur lequel vous trouvez des dossiers très très complets, tout le temps mis à jour, avec des cartes, des graphiques et d'autres documents, parfois des reportages photographiques aussi. Donc là, vous voyez, cette carte, elle m'a intéressée parce que justement, on voit qu'en France, il y a, alors je le dis pour ceux qui sont loin, il y a 3,3 millions d'immigrés. Bon, on considère qu'il y en a entre 3 millions et 3 millions 6, d'étrangers, pardon. Hein. Et vous voyez donc les flux, hein, qui arrivent vers l'Europe, qui viennent donc de Russie, d'Asie, de Turquie, d'Asie centrale, de Tunisie, d'Algérie, du Maroc. Et on a donc une idée du pourcentage de ces étrangers dans la population. Et on voit donc la diversité des situations en Europe. Alors, quand on parle de pression migratoire aux frontières, c'est là que je voudrais aussi revenir sur le contenu des informations qui sont dans l'infographie du Parisien. Donc, 200 000 migrants qui arrivent chaque année en France, c'est un chiffre qui est exact. 60 000 nationaux, donc des Français, 60 000 citoyens originaires de l'Union européenne et 80 000 extra-européens. Mais ce qu'on oublie de dire dans tous les documents que j'ai consultés, sauf évidemment dans ce numéro auquel je fais référence, qui est de Alternative économique, la société française, donc c'est un hors-série qui est sorti là en 2011, le dernier, il n'en reste que 75 000. C'est-à-dire que on ne vous parle que des entrées, mais pas du solde migratoire. Hein, donc là aussi, ce sont des données donc, qui sont à prendre avec précaution. Donc si on récapitulait, en 2006, on comptait plus de 5 millions d'immigrés en France, 8% de la population, dont 3,6 millions d'étrangers, c'est-à-dire qu'il y a dedans, il y avait 1,5 million d'immigrés français. Que parmi eux, 40% sont européens, dont 35% provenant de l'Union européenne et 43% originaires d'Afrique, Maghreb et Afrique subsaharienne confondus. Voilà, alors ce qu'on peut voir aussi dans les graphiques, et il y en a un donc dans cette infographie, on voit donc tout d'un coup entre 2006 et 2007, l'immigration de travail augmentée. C'est en fait, ça vient d'une loi de juillet 2006 qui a donc ouvert l'immigration de travail, mais pour des secteurs bien précis. Hein, donc il y a 7 secteurs économiques, donc bâtiments, travaux publics, hôtellerie, restauration, alimentation, agriculture, mécanique, industrie de process, c'est-à-dire les opérateurs de production dans le domaine du verre, du papier carton, de l'agroalimentaire. Le commerce et la vente et la propreté, c'est-à-dire toutes les entreprises de services autour du nettoyage. Donc on accueille à l'heure actuelle entre 17 500 et 20 000 migrants donc, de travail, mais c'est une immigration donc choisie. Alors on en vient à est-ce que c'est une nécessité ? Il y a donc les économistes sont partagés sur cette question. Moi, je ne trancherai pas. Je vous laisserai simplement l'idée que c'est effectivement une problématique hein, liée aux migrations. Est-ce que à cause de la population active en baisse, à cause du vieillissement généralisé dans les pays du Nord, que ce soit nord de l'Europe ou pays du Nord en général, bon, avec des nuances, hein, est-ce que donc on a un recours indispensable aux migrants. Je dis avec des nuances parce que de ce point de vue, la France est un des pays donc, qui a un solde naturel très élevé hein, par rapport à beaucoup de pays d'Europe. Par exemple, donc il faut que je retrouve mes chiffres. Alors l'Allemagne pourrait perdre 4 à 7 millions d'habitants d'ici 25 ans. La Russie en perd 1 million par an. En 2030, 50% des Français auront plus de 50 ans. En 2010, 50% de la population au sud de la Méditerranée a moins de 25 ans et 30% d'entre eux sont au chômage. En 2010, l'âge médian de l'Italie sera de 41 ans contre 19 en Afrique subsaharienne. Donc, si vous voulez, ça met en évidence, enfin, ça donne quelques données chiffrées hein, du problème. Alors, il y a une autre idée reçue. Bon, je ne vais pas m'étendre dessus. C'est sur le coût, en fait, de l'immigration. Toutes les études récentes qui ont porté sur la question montrent qu'en fait, les migrants rapportent plus qu'ils ne coûtent. Alors, on a mis en évidence donc un différentiel économique entre monde développé et monde en développement, entre population au chômage et bassin d'emploi. On a mis en évidence aussi des flux migratoires sud-nord, mais il y a aussi, bien évidemment, dans les échanges, hein, puisqu'on s'intéresse à zone de contact, zone d'échange, il y a donc les flux touristiques et puis les flux de marchandises. Donc les flux touristiques sont évidemment dans l'autre sens, hein, c'est plutôt nord-sud. Quant aux flux de marchandises, c'est surtout donc les produits bruts hein, qui quittent donc l'Afrique du Nord et qui viennent vers l'Europe à travers, par exemple, comme vous vous en doutez, les hydrocarbures. Donc je voudrais vous montrer maintenant à ce qu'on appelle un croquis schéma qui a été élaboré donc à partir de l'émission et qui permet, avec toutes les données que je vous ai apportées, de, on va dire, cartographier ces données. Voilà. Alors, bon, ça ressort plus ou moins bien parce que normalement, on différencie mieux. Ça vient sans doute de la transposition là, avec les différents systèmes informatiques. Donc, normalement, évidemment, le grisé de l'Europe n'est pas du tout le même que le grisé de l'Afrique. Alors, le grisé de l'Europe, la signification, c'est pays riches et vieux. Vieux, entre guillemets, bien entendu. Et pour le grisé de l'Afrique, c'est pays pauvres et jeunes. Alors, vous retrouvez donc Sahara, zone désertique, et vous retrouvez la ligne entre les deux qui représente l'interface. Alors, comme vous le voyez, les grosses flèches noires butent sur cette interface, c'est-à-dire qu'elle ne passe pas de l'autre côté. Contrairement aux flux touristiques, alors ce sont les flèches noires qui viennent du sud et qui montent vers le nord, contrairement donc aux flux de marchandises en vert qui quittent donc le Sahara pour aller vers l'Union européenne et le reste de l'Europe, et les flux touristiques donc qui franchissent aussi l'interface pour venir donc dans la partie, on va dire, nord de la rive sud. Et vous retrouvez donc l'Union européenne dans sa bordure bleue qui représente donc là l'espace Schengen, hein, avec l'impossibilité de passer pour certains, mais donc pas pour tout le monde. Alors, on va voir maintenant donc ce qu'il en est des flux migratoires, mais j'ai l'impression qu'il est déjà... Il est déjà 6 heures, donc bon, je vais continuer. Je ne sais pas si je peux continuer très longtemps, oui, parce que je n'en suis qu'à ma deuxième partie, mais je vais essayer d'aller plus vite. Donc, ce qu'il en est des flux migratoires à l'échelle de la planète et ce que ces flux nous apprennent du monde d'aujourd'hui. Autrement dit, les flux migratoires, est-ce qu'ils dessinent une nouvelle géographie? Alors, voilà donc les flux migratoires dans le monde. Comme vous le voyez, et surtout si vous êtes de loin, on a une impression confuse qu'il y a des flèches partout. En fait, c'est significatif, c'est que effectivement, il n'y a absolument aucun continent ou région du monde qui échappe à des flux migratoires. La taille ici ne représente pas une quantité, hein, c'est-à-dire que les flèches représentent seulement, distinguent, on va dire, des natures de migration. Donc on a la flèche la plus importante que vous voyez de loin, qui sont les flèches, on va dire, orangées, représente les principaux flux migratoires mondiaux. Et on voit donc les zones qui sont encerclées de rouge représentent les grandes zones des migrations économiques. Alors on voit des systèmes à la fois mondiaux et à la fois régionaux. On voit par exemple qu'il y a un système migratoire américain avec... une zone d'émigration donc qui comprend à la fois l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale et qui va vers donc la partie riche que vous connaissez appartenant à la triade des États-Unis et du Canada. Si on se déplace et qu'on prend le continent africain, on voit donc un système très compliqué avec des migrations régionales qui nous montre donc là qu'il y a aussi des flux sud-sud. Et je vous montrerai tout à l'heure, juste après, et je reviendrai sur la carte, juste après, sur justement les grandes orientations des flux migratoires. Donc on voit le départ de l'Afrique de l'Ouest vers l'Europe ou bien vers l'Afrique du Sud, et puis du sous-continent indien ou de l'Asie du Sud-Est vers l'Australie, vers l'Europe ou vers l'Amérique du Nord. Mais on voit aussi que du sous-continent indien, on va vers l'Arabie saoudite. Et donc, je voulais vous passer ce document. Voilà, alors celui-là, je l'ai pris dans une revue que vous pouvez télécharger sur Internet gratuitement. C'est Population et Société, qui est la revue de l'INED. Donc, dans le dernier numéro qui s'intéresse justement aux migrations, on voit donc la proportion des trajectoires, des flux. On voit donc que du sud vers le nord, 62 millions, du sud vers le sud, 61 millions, c'est-à-dire des quantités, des stocks à peu près équivalents. et puis du nord vers le nord, donc 53 millions, et du nord vers le sud, 14 millions. Alors, pourquoi? On va essayer d'expliquer ces flux, donc, et leur, on va dire, la raison hein, qui font qu'il y a ces modifications. Donc, des flux qui touchent tous les continents. Je voudrais revenir sur le nombre de migrants. Il y a 214 millions de migrants internationaux en 2010, ce qui représente un peu plus de 3% de la population mondiale. C'est beaucoup moins qu'à la fin du 19e siècle et qu'au début du 20e siècle, où il y avait entre 5 et 10% de la population qui migrait. Et ça, donc, ce sont des chiffres que je tiens d'un démographe reconnu qui s'appelle Gilda Simon et qui a donc, vous verrez, j'ai fait une bibliographie assez courte, hein, mais avec les ouvrages principaux sur la question, et elle sera disponible sur donc le site de la BPI. Il y a donc, en fait, deux grandes vagues de migration. La première se situe entre 1880 et 1930. C'est celle pendant laquelle on avait donc entre 5 et 10% de la population qui bougeait. Et aujourd'hui, donc, depuis 1980, on est entré dans la deuxième. Alors, il faut ajouter, évidemment, à ces 214 millions de migrants internationaux, les 740 millions de migrants internes. Un phénomène très important à l'heure actuelle. Bon, vous avez dû évidemment aborder les migrations internes en Chine, hein, qui représentent donc une population énorme de tous ceux qu'on appelle les Mingong, hein, c'est-à-dire les paysans ouvriers qui bougent et qui quittent donc l'intérieur de la Chine pour aller dans ce qu'on appelle la Chine littorale, donc liée au phénomène de la littoralisation. Alors, on repère un double basculement, en fait, parce que l'Europe, qui était une zone d'émigration dans cette première vague, est devenue une zone d'immigration. Et on voit que donc les flux sud-nord et les flux sud-sud sont à peu près équivalents. On a des nouveaux pôles de départ, l'Inde et la Chine, avec de fortes diasporas donc, dans le monde. Hein, la diaspora chinoise, donc, c'est à peu près entre 30 et 50 millions hein, de personnes, et la diaspora indienne à peu près autant. Donc ça représente, si vous voulez, on voit donc de nouveaux pôles de départ. En même temps, donc on a de nouveaux pôles d'accueil. On a vu donc sur la carte que je vais vous remettre. Donc, vous voyez, les zones vert foncé, ce sont les zones d'immigration pardon, massive. Et on a donc la Libye, on a l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, Kazakhstan, Kyrgyzstan. Donc, évidemment, le lien entre ces pays, c'est le pétrole, hein, c'est-à-dire donc des pays à faible population qui ont besoin de main-d'œuvre pour travailler sur les sites pétroliers, mais pas seulement, puisque ce sont aussi des pays donc où l'équipement et en particulier les constructions, le bâtiment, les villes, je pense en particulier aux Émirats arabes unis, aux villes de Dubaï, Abu Dhabi, hein, qui se construisent énormément et qui ont besoin donc de main-d'œuvre dans le bâtiment. Donc ce sont des migrations en fait régionales qui touchent d'abord les pays voisins. Vous voyez qu'en Libye, donc il y a des migrations qui viennent de Tunisie, par exemple, qui viennent du Niger, qui viennent du Tchad, qui viennent d'Égypte, beaucoup. Et c'est vrai que récemment, donc toutes les perturbations qui ont lieu en Égypte et en Libye ont obligé certains à repartir dans leur pays d'origine. Et ceux-là viennent aussi, donc, comme vous le voyez, ils viennent d'Inde, ils viennent du Sri Lanka, ils viennent des Philippines, c'est-à-dire qu'ils viennent de plus loin en Asie. Les flux touchent tous les continents. On l'a vu avec, donc, des modifications dans ces flux. Les autres modifications montrent que c'est un phénomène de plus en plus complexe, puisque des pays de départ deviennent aussi des pays d'accueil et des pays de transit, c'est-à-dire les trois à la fois. Alors j'ai fait plusieurs fois allusion au Mexique. On peut comparer de ce point de vue le Maroc et le Mexique, dans la mesure où au Maroc arrivent donc des migrants qui viennent de toute l'Afrique, qui peuvent être des Marocains au départ aussi. Donc Marocains candidats au départ, Africains venant d'Afrique subsaharienne candidats au départ et arrivant au Maroc pour essayer de passer en Espagne. mais aussi migrants venant d'ailleurs et qui, du fait de ce système hein, de blocage que je vous ai montré tout à l'heure, bah, restent donc bloqués au Maroc. C'est la même chose à peu près au Mexique où on a donc non seulement des Mexicains candidats au départ, mais aussi des migrants qui viennent de toute l'Amérique centrale, hein, qui viennent du Guatemala, voire de plus au sud, donc en Amérique. Donc voilà, si vous voulez, pourquoi ce phénomène devient de plus en plus complexe. Et en même temps, on a des facteurs qui se superposent donc, dans les, on va dire, les motivations, hein, les facteurs, les motivations de ces migrations. Alors la variable migration du travail, elle est quasiment toujours vraie parce que qu'on soit donc un réfugié obligé de quitter son pays pour cause de conflit, une fois qu'on est dans un autre, qu'on est arrivé dans un autre pays, on est amené évidemment à subvenir à ses besoins. Alors c'est vrai qu'il y a des règles contraignantes pour ceux qui ont obtenu le droit d'asile, hein, qui limitent les possibilités de travailler. Mais bon, je ne vais pas explorer ça en détail. Donc la migration, on va dire travail, la fonction travail, elle existe à peu près toujours. Mais il y a donc, si vous voulez, dans les facteurs, il y a le fait de la répulsivité, donc on part parce qu'on est forcé, et il y a le fait de l'attractivité. Donc je vais commencer par les contraintes. Alors là, on voit carrément rien. Donc la carte du haut, ce sont les réfugiés, la carte du milieu, les déplacés, et la carte du bas, les rapatriés. Alors c'est vrai que j'aurais mieux fait de prendre la carte qui mélangeait les déplacés et les réfugiés parce que vous auriez vu donc que en fait ces réfugiés, ces déplacés, ils sont surtout, vous voyez, dans les pays du Sud. En fait, ils restent dans les pays du Sud et il n'y en a peu qui vont vers le Nord. Ceux qui sont au Nord, ce sont donc des déplacés, par exemple de l'ex-Yougoslavie, qui sont restés hein, dans les pays donc de l'ex-Yougoslavie. Donc, évidemment, ces réfugiés déplacés sont à mettre en relation avec les conflits, comme je le disais tout à l'heure. Alors, il y a donc l'Irak, la zone des Grands Lacs en Afrique et l'ex-Yougoslavie détiennent le record des départs depuis 1980. Et pour le record de l'accueil depuis 2000, c'est l'Iran et le Pakistan qui accueillent le plus donc de réfugiés déplacés. On compte à l'heure actuelle 25 millions de déplacés réfugiés. Ce sont les chiffres donc officiels de ce que le HCR, hein, c'est-à-dire le Haut Commissariat aux réfugiés, qui dépend des Nations Unies, est amené à prendre en charge. Et cela concerne 150 pays différents. Se pose et se posera de plus en plus la question aussi des réfugiés climatiques, qu'on évalue donc aux alentours de l'année 2050, entre 150 et 200 millions hein, d'ici donc 2050. Alors après, on va passer aux facteurs donc, qui sont liés plutôt à l'attractivité. Alors l'attractivité, elle peut dépendre de facteurs politiques. Par exemple, le fait que, avec l'élargissement à l'est de l'Europe, des pays donc, de l'Europe de l'Est et maintenant donc fasse partie de l'espace Schengen avec la possibilité de bouger à l'intérieur. Hein, il s'agit donc des pays qui avaient un moratoire. À l'heure actuelle, il n'y a plus que la Bulgarie et la Roumanie et Chypre qui soient soumis à un moratoire. Donc on assiste à ce qu'on appelle une sorte de chaîne migratoire avec par exemple donc des travailleurs polonais ou roumains qui vont donc vers l'ouest, vers par exemple le Royaume-Uni ou l'Irlande. Ils sont remplacés par des Ukrainiens ou des Biélorusses en Pologne et les Roumains sont remplacés par des Moldaves en Roumanie. Mais j'ai donc lu un article assez intéressant dont le contenu m'a quand même relativement étonnée, du fait que il y a ces Roumains donc qui partent vers l'ouest de l'Europe font défaut à des entreprises italiennes qui sont venues s'implanter en Roumanie et qui ont à l'heure actuelle comme main d'œuvre ont fait venir 300 Chinoises. Donc vous voyez que quand on parle de la mondialisation, c'est le cas puisque il y a, on voit bien les répercussions et l'interdépendance qu'il y a entre des phénomènes à la fois politiques et d'ordre politique et d'ordre économique. Donc cette attractivité, elle est liée à une réalité du terrain, réalité économique et politique. Elle est liée aussi à l'imaginaire migratoire dont je parlais tout à l'heure et sur lequel je ne reviendrai pas, mais auquel j'ajouterai, par exemple, parmi les touristes qui franchissent la flèche bleue de mon croquis tout à l'heure, vous avez aussi, parmi ces touristes, des immigrés qui reviennent, des immigrés ou bien les enfants d'immigrés qui reviennent donc dans le pays, leur pays d'origine ou le pays d'origine de leur famille et qui véhiculent et eux aussi donc l'idée d'une certaine réussite, d'un confort de vie dont on peut bénéficier sur la rive nord de la Méditerranée. Alors l'attractivité des pays pétroliers qui est due à la faiblesse de la population résidente et du coup au nécessaire appel à une main-d'œuvre étrangère, donc je ne reviendrai pas dessus. Le rôle des diasporas aussi, qui constitue donc un réseau, donc je faisais allusion, je le répète, aux 40 et 50 millions de Chinois, de plus en plus nombreux par exemple en Afrique. Alors que jusque-là, vous avez vu des photographies, en particulier sur les Chinatown qu'il y a un peu partout, que ce soit à Chicago, à Los Angeles, à San Francisco et dans d'autres villes donc des pays du Nord. Et donc, il y a de plus en plus de Chinois aussi en Afrique. Et on va ajouter donc les 300 Chinoises de Roumanie. Alors, ce qu'on appelle donc les diasporas, c'est la dispersion d'une population. Mais il faut que, si vous voulez, pour qu'il y ait diaspora, il faut qu'il y ait le maintien de liens extrêmement étroits entre cette communauté et son pays d'origine, avec par exemple des échanges de marchandises, le commerce entre la Chine et les Chinois installés aux États-Unis, par exemple. Et puis les traditions culturelles, par exemple. Au-delà évidemment de la langue. Donc on voit que ces migrations internationales apparaissent comme une composante indissociable de la mondialisation. Alors pour ça, donc, je vous renverrai évidemment à tous les travaux et à tous les écrits de Laurent Carroué. Mais pour retenir donc une idée qui est que la mondialisation repose... Il va falloir que je termine. Ouais. Donc je vous dirai très brièvement pour la suite et puis je pense qu'on pourra mettre le reste du propos sur le site de la BPI et vous le trouverez là. Donc, si vous voulez, l'idée à retenir, c'est que la mondialisation fonctionne sur la différenciation des territoires. Et on sait très bien que pour qu'il y ait par exemple des flux de marchandises ou de personnes, il faut qu'il y ait un différentiel, sinon il n'y aurait pas de flux. Et repose aussi donc sur la fabrication, la production d'inégalités par cette mondialisation. Et en partie aussi parce que la mondialisation, c'est aussi l'extension de l'économie libérale et du capitalisme à l'échelle de la planète. Et on n'a encore pas vu que le capitalisme était facteur d'égalité dans le fonctionnement de l'économie. Alors donc la question suivante, c'était quelle contribution des migrants au développement ? Donc là, je vous renverrai, évidemment, il faut mentionner, donc faire référence à tout ce qu'on appelle les transferts de fonds, qu'on appelle aussi les remises, voir leur poids donc, dans le PIB des pays, qui reçoivent donc l'argent des migrants qui renvoient une partie de leurs économies dans leur pays d'origine, voir aussi ce qu'il en est du co-développement. Mais je terminerai donc sur quelques idées fausses à refaire. Je promets que c'est terminé après. Donc, plusieurs idées fausses. D'après, par exemple, Catherine Vitol de Venden, c'est d'elle que je me suis le plus inspirée. Vous le verrez d'ailleurs dans la bibliographie. Donc, une idée fausse. On va développer les pays. Il n'y aura plus de migration. Ce n'est pas vrai. En fait, c'est un phénomène auto-entretenu. Plus il y a développement, plus il y a aussi facilité et envie, en fait, d'aller exercer, soif de connaissances et d'aller travailler ailleurs. Et en partie aussi parce que dans le Sud, il y a toujours un manque quand même de structures, de labos, etc. L'autre idée fausse, c'est fermer les frontières pour bloquer les migrants, parce que ça bloque surtout ceux qui sont là et qui ne repartent plus. Donc, si vous voulez, il y a ces idées-là donc, qu'il faut développer. Et l'idée du paradoxe, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la libéralisation, C'est donc surtout qu'il y a une libéralisation dans la circulation des marchandises et des produits, mais il n'y a pas de libéralisation dans la circulation des hommes, et que ce qui manque encore comme droit de l'homme, d'après toujours Catherine Vitol de Venden, mais d'autres, un droit à la mobilité qui se ferait partie des droits de l'homme, puisqu'à l'heure actuelle, le seul article qui existe dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est le droit de quitter son pays, mais il n'y a pas de droit, en revanche, d'entrer dans un autre, sauf si on bénéficie du droit d'asile.
Donc, c'était la quatrième séance d'Objectif BAC. Ces séances sont donc enregistrées. Vous pouvez les réécouter sur le site de la BPI, la rubrique Archives sonores. Donc, vous pourrez écouter celle qui a été consacrée à la philosophie, à l'économie et la semaine dernière aux sciences de la vie et de la terre. Par ailleurs, la bibliothèque vous propose aussi de vous orienter dans ses collections avec des petites brochures qui s'appellent « Réviser l'épreuve de géographie », réviser l'épreuve de français et réviser les épreuves d'art plastique et d'histoire de l'art. Et puis, comme pour les autres séances, donc un questionnaire vous est diffusé. Merci de le remplir, ça peut nous aider à améliorer nos conférences. Merci.